Mola, archive sonore.
C'est donc un roman qui s'appelle Studio, duquel nous allons parler aujourd'hui. Je me souviens d'une conversation que nous avions eue il y a quelques années, au moment de la parution de Portrait du joueur. C'était une petite émission de télévision que nous avions faite ensemble. Et vous me disiez... En fait, je vous faisais remarquer que Portrait du joueur était quand même assez différent des livres précédents, que c'était un ouvrage presque classique du point de vue narratif, c'était très éloigné de Paradis, par exemple. Et vous me disiez, oui, mais maintenant, il y aura dans mon œuvre deux directions, des ouvrages qu'on pourrait rattacher à la littérature expérimentale, enfin des ouvrages très contemporains dans le style de Paradis, et puis des ouvrages d'un accès plus facile, peut-être des ouvrages effectivement plus classiques, entre guillemets, comme ce Portrait du joueur. Alors, est-ce que ces deux directions, vous les avez poursuivies? Et Studio, appartient-il à l'une ou l'autre de ces directions-là? Ou bien combine-t-il les deux, peut-être, je ne sais pas.
Et on me dit souvent, je remarque, est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est vraiment un roman? Alors je dis oui, c'est un... Ah oui, c'est un roman. Et je vois qu'il y a dans cette question quelque chose de fondamental, parce que le roman porte en lui-même cette tradition qui est très enracinée, qui est celle du roman réaliste ou naturaliste du 19e siècle. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir pourquoi les gens continuent à se nourrir d'une littérature imaginaire qui ne correspond nullement à la situation dans laquelle ils se trouvent à la fin du 20e siècle, ni dans leur situation personnelle, ni dans la situation de la société. Pourquoi y a-t-il sur le marché, appelé roman, une fabrication de livres qui raconte ce qu'on pourrait appeler une sorte d'opium, une marchandise exotique, qui ne définit jamais la réalité concrète de quelqu'un qui est en train de vivre et de mourir aujourd'hui dans la société où nous sommes, à la date où nous sommes. J'ai l'habitude qu'on parle énormément de moi, entre guillemets, comme figure, etc. Pourquoi pas? Comme l'a dit encore récemment Jean-Luc Godard, on s'intéresse de plus en plus aux personnes et pas aux œuvres, et qu'on m'interroge en général très peu sur le contenu des livres, c'est-à-dire sur ce dont ils parlent. Et quand vous disiez, cher Jean-Marie Plane, est-ce qu'il y a une différence entre des œuvres plus expérimentales ou des œuvres plus classiques? Certainement, il y a une apparence de lecture plus facile, encore que je pourrais démontrer que cette apparence n'est pas forcément, n'ouvre pas forcément sur une véritable compréhension. Pas plus que... Donc c'est une question de figuration, plus ou moins apparente, oui, encore une fois, c'est comme je vais donner l'exemple de Picasso qui continuait à faire des œuvres extrêmement tendues sur le plan formel tout en faisant des figurations qui apparemment étaient plus faciles, mais encore faut-il savoir si vraiment nous les avons intégrées, comprises dans leur déformation. Et j'ai l'habitude qu'on ne parle jamais de ce dont je parle dans mes romans, c'est-à-dire de leur contenu. On s'arrête à leur forme qui semble problématique, alors qu'à mon avis elle est finalement tout ce qu'il y a de plus facile à franchir, ce dont j'ai maintes preuves d'ailleurs de la part des lecteurs ou des lectrices, et on ne parle pas du contenu. Alors ça m'intéresse beaucoup, par exemple pour Studio. De quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir pourquoi un narrateur d'aujourd'hui peut, en racontant son expérience d'abord enfantine et ensuite historique, peut, à travers ses sensations, sa mémoire, son expérience, notamment à Bordeaux, en 1936-45, pas n'importe quel narrateur donc, peut arriver à rendre évidente la couleur, la signification profonde d'œuvres fondamentales pour moi, qui sont la poésie de Hölderlin et celle de Rimbaud. Ce qui suppose une grande ambition, parce que ça suppose qu'à propos de Hölderlin ou de Rimbaud, on a dit beaucoup de choses. Ces gens ont été beaucoup imaginés, surtout Rimbaud, beaucoup délirés, beaucoup mimer, mais qu'on n'a pas, à mon avis, vraiment dit de quoi il est question dans Une saison en enfer, dans Les Illuminations, dans le Carimbault, si fameux. Mais si, par exemple, vous allez me dire, on peut me dire, pourquoi vous n'écrivez pas un essai sur Hölderlin ou sur Rimbaud ? Mais la position de l'essai n'arriverait pas au cœur du problème. C'est-à-dire qu'il faut une expérience existentielle très précise, reposant, encore une fois, sur une certaine façon de vivre, une certaine façon d'être décalé par rapport à l'expérience sociale, à l'expérience historique commune. Et à ce moment-là, on arrive, à mon avis, à une grande évidence sur Hölderlin et sur Rimbaud. Donc, ce roman est un roman parce que le narrateur a eu cette enfance-là, et pas une autre. C'est-à-dire que né à la fin de... Bon, disons que c'est autobiographique, si vous voulez, donc comme portrait du joueur, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que cet enfant né à Bordeaux à la fin de l'année 36 va avoir des impressions d'enfance sur quelque chose qui est profondément encore occulté et non compris dans l'histoire de ce pays, et dont on reparle sans cesse, forcément, puisque le refoulé revient sans cesse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être né à Bordeaux, dans cette famille-là, à ce moment-là ? C'est un carrefour. Pourquoi ? Parce qu'il y a la guerre d'Espagne qui fait revenir des Espagnols vers Bordeaux et que ce narrateur a une expérience très précoce qui consiste à avoir été bercé par la langue et les bras espagnols féminins. Donc il y a cet aspect. Parce que plus tard, les Allemands sont à Bordeaux et que ça crie beaucoup en allemand autour de ces tympans. Pourquoi ? Parce que sa famille est plutôt anglophile et qu'on écoute aussi à ce moment-là Radio Londres de façon cachée dans les greniers pendant que les Allemands sont en bas. Donc il y a l'espagnol, il y a l'allemand, il y a l'Angleterre. C'est une situation extrêmement perturbée. Et donc, je ne crois pas que vous avez dans la littérature française un point de vue d'enfant critique et intériorisé sur cette période de l'histoire. Tout ça est tabou, tellement tabou que nous en reparlons sans cesse à propos du passé de tel ou tel homme politique, de tel ou tel président de la République, de telle ou telle vedette de l'actualité. Il y a ce que j'appelle la théorie des trois placards. Ce pays, et un romancier qui ne parle pas de ça, il parle de quoi ? Ben, il n'est pas au courant de la vérité historique. Donc le roman, pour moi, doit dire une certaine vérité historique d'un point de vue très fondamental. Donc il y a trois périodes dans l'histoire de ce pays, du moins récente, c'est 40, 42, 43, 44. Il se passe quelque chose, où en sommes-nous ? Voilà une réponse dans ce livre. Il y a une autre période, c'est la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où en sommes-nous ? En a-t-on tiré vraiment les conséquences ? N'y a-t-il pas là des résurgences étranges ? C'est un énorme problème. Et un troisième placard, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 1968 ? Y a-t-il eu une révolution ? Est-ce qu'elle a été avortée ? Ce livre prend position d'une façon, d'ailleurs comme tout ce que j'écris, de façon toujours apologétique à propos du mouvement de 1968 et de ce qu'il a déclenché. Et qui hante encore tous les esprits, car c'est un spectre. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau 68 ? Est-ce que ça ne va pas sauter ? Est-ce qu'on n'est pas à la veille d'eux ? Donc voilà, la fonction du roman pour moi, et qui est la fonction du roman de tout temps, c'est d'être en phase fondamentale avec son époque, avec sa vie elle-même, la vie elle-même de celui qui écrit. Et toutes ces questions sont des questions que je traite. Et donc c'est une question moins de forme, parce que de temps en temps je peux forcer la forme comme ci ou la détendre comme ça, que de contenu.
Oui, je ne suis pas absolument sûr qu'on puisse distinguer, comme vous le faites, la forme et le contenu. Ça fait longtemps, d'ailleurs.
Il faut parler du contenu.
Voilà, parlons du contenu, mais les deux ne sont pas séparables, à mon sens. Cela dit, parlons du contenu. Et par exemple, puisque vous faites vous-même un rapprochement entre l'expérience de cet enfant né à Bordeaux, ayant grandi à Bordeaux dans les années que vous venez rapidement de décrire, avec le contexte politique que vous venez rapidement
historique,
que vous venez rapidement d'évoquer, en quoi cette expérience, en quoi ce domaine existentiel rejoint-il celui de Hölderlin et celui de Rimbaud, puisque vous les associez étroitement dans le livre ?
Eh bien, je crois que le problème que nous avons est celui d'une histoire qui tend à se bloquer sans cesse, à se refermer. Je crois que l'histoire est rarement ouverte. Soit de façon dramatique, par dislocation et conflit, comme cette période de 36-45, qui fait le fond de mon expérience d'ouverture, parce que chaque pouvoir étant contesté par chaque autre, les langues se mélangeant et le côté extraordinairement tragique des événements, tragique et aussi parfois enjoué, c'est une époque de grandes mutations. Bien. L'histoire ensuite se referme, je crois. Voilà pourquoi Hölderlin et Rimbaud m'intéressent. Parce que je ne crois pas que ce soit du tout par hasard qu'Hölderlin, qui vient ici dire sur Bordeaux et la Garonne ce qui a été dit de plus beau et de plus essentiel, c'est-à-dire que tout le monde devrait savoir ce poème qui s'appelle Andenken par cœur, je ne crois pas que ce soit par hasard qu'il se soit exprimé au moment de la seule grande révolution probablement qui ait eu lieu, c'est-à-dire la Révolution française. Et rien que cette mise à l'écart de Hölderlin par rapport à ce qui s'est passé avec ses répercussions mondiales dans la Révolution française m'intéresse. Pourquoi on l'a mis à l'écart, hein, 36 ans dans cette tour du menuisier Zimmer à Tübingen, où j'ai été voir plusieurs fois pour savoir ce que pouvait ressentir, c'est la moindre des choses puisqu'il est venu à Bordeaux, ce que pouvait ressentir un des plus grands poètes occidentaux dans cette tour pendant si longtemps. On sait qu'il jouait de l'épinette, qu'on le tenait pour fou et qu'il récitait de temps en temps ses poèmes par la fenêtre ouverte vers la nature, donc comme s'il n'y avait personne pour l'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être, si vous voulez, Hegel ou Schelling, c'est-à-dire les grands philosophes de l'époque qui ont ressenti la Révolution française, qui en ont formé le concept ultérieur, et ce poète qui est mis à l'écart, enfin, ou qui se met à l'écart. En tout cas, c'est dans cette période révolutionnaire que ce si grand poète est né et s'est exprimé. Même chose pour Rimbaud. On ne peut pas dissocier l'expérience de Rimbaud de ce grand soubresaut, de cette commotion qu'a été la Commune de Paris. Même si, bien entendu, l'expérience de Rimbaud ne se réduit pas du tout à cela, comme on a essayé de lui faire dire, malgré lui. C'est une expérience métaphysique qui peut ouvrir sur des interprétations religieuses, Claudel, sur des interprétations historico-révolutionnaires, les surréalistes, mais c'est tout à fait autre chose. Ça nous attend encore, j'ai cette impression. Mais c'est indubitablement quelque chose qui se produit dans une secousse révolutionnaire. Une secousse révolutionnaire, ça veut dire que vraiment, il y a des gens qui sont décidés à changer le monde de fond en comble. Hein, c'est ça. Et quand je dis que j'écris du point de vue de 68 pour moi, enfin tel que je le conçois, automatiquement je suis amené à me demander ce que c'est que la plus grande liberté possible à un moment du temps. C'est-à-dire en cette période d'ouverture. Puis après, il y a des périodes de régression, de répression dans laquelle nous sommes, à mon avis, indubitablement aujourd'hui. On le voit. Enfin, qui dira le contraire ? Et voilà, je crois qu'il y a comme ça des ouvertures de l'histoire et puis des fermetures. Et donc, il faut essayer de déchiffrer les fermetures à partir des ouvertures et ne pas tenir les ouvertures pour des cingleries ou des fantaisies qui seraient venues à certains artistes, etc. Moi, je suis très frappé de la régression que nous vivons, de l'illettrisme galopant, de l'analphabétisme, de l'ignorance de l'histoire. Qui s'organise en quelque sorte, pas par hasard, parce que souhaite une tyrannie, que l'esclave soit le plus ignorant possible.
Revenons à Hölderlin et à Rimbaud, et pardon, revenons à une question de forme. Le livre cite abondamment Rimbaud et abondamment Hölderlin, et évidemment c'est toujours admirable. Et il y a une espèce de combinaison entre ce qui est le texte de Solers, ou en tout cas le récit du narrateur, et puis des passages, des illuminations, ou des passages des poèmes d'Hölderlin. Alors, il y a un concept qui était à la mode il y a bien longtemps, qui était celui d'intertextualité. Bon, ça fait penser un peu à cela, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'on dise « Oh, ce qu'il y a de plus beau ». Je me souviens, pardon, j'ouvre une parenthèse, je me souviens d'un philosophe sur lequel on avait écrit un livre et qui me disait « Oh, ce qu'il y a de mieux dans ce livre, ce sont les citations », qui étaient de lui, bien entendu. Eh bien, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on dise que ce qu'il y a de plus beau dans Studio, c'est les passages de Rimbaud ou ceux de Hölderlin ?
Bizarrement, je ne crois pas. Ce qu'il y a de plus beau, c'est ni les citations ni ce qui les amène, c'est la question qui est posée sur leur évidence. C'est-à-dire que je me propose de démontrer que personne n'a jamais lu Hölderlin et Rimbaud. Donc, si je les cite, c'est simplement que j'amène le narrateur à dire « Voilà, je ressens maintenant la vérité de ce texte. » Et comme aucun professeur ni aucun philosophe ne se met dans la situation existentielle, physique, de ressentir ce qui est dit, c'est une démonstration de la vérité du texte. C'est pas un ornement, c'est pas quelque chose qui sert à une démonstration universitaire ou philosophique. C'est tout le contraire. J'arrive à la citation par une expérience personnelle. Évidemment, on peut trouver que la citation ressort et que le reste est mal écrit. Mais l'embêtant, c'est que je crois que c'est pas le cas.
Vous ne voulez pas faire quelque chose d'universitaire, certes.
Parce que je suis comme tout le monde. Dans les textes en général d'universitaires ou de philosophes, je lis les citations.
Oui. Donc, ça n'est certainement pas universitaire comme approche de ses œuvres. Mais en même temps, peut-être ça ne l'est pas assez par moment. Parce que vous citez le fameux poème, n'est-ce pas, « Les retrouver quoi, l'éternité », etc. Et vous citez les deux versions de ce poème. Il faudrait retrouver exactement le poème et exactement le passage. Vous citez les deux versions, et vous dites quelque chose ensuite de cet ordre-là. Celui qui n'aura pas aperçu la différence entre ces deux versions et la supériorité de l'une sur l'autre, bah c'est vraiment un couillon. Enfin, le mot couillon n'y est pas, mais enfin, ça veut dire ça. Alors, là, moi, j'avoue que d'abord, je ne sais pas laquelle est supérieure à l'autre, et j'aurais eu besoin qu'on m'explique davantage.
Alors, je vais essayer de vous expliquer. Le seul livre que Rimbaud ait publié en 1873, un franc à l'Alliance typographique universelle, rue aux Choux, à Bruxelles, c'est Une saison en enfer. Donc nous savons que ce livre, il en a corrigé les épreuves et qu'il en a voulu la publication. C'est le seul texte qui ait été publié sous son regard. Dans ce texte, et je me rends compte à quel point c'est encore un sujet qui devrait être connu de tout le monde. Dans Une saison en enfer, Rimbaud, se citant lui-même, recopie un certain nombre de ses poèmes antérieurs, 1872, etc., dont il n'a jamais surveillé l'impression, mais qu'il avait probablement en tête. D'habitude, on dit, tiens, c'est drôle, il se cite lui-même, il a peut-être mauvaise mémoire, comment voulez-vous qu'un poète ne se cite pas en ayant en tête exactement ce qu'il a écrit. Donc, il faut prendre très au sérieux, il n'y a aucune étude universitaire là-dessus. C'est la première fois, je crois, sérieusement, que quelqu'un se demande pourquoi il y a une version différente d'une autre. Je sais que c'est vexant pour tout le monde. Ça aurait dû être... Non, c'est très vexant. Je reçois des tas de lettres qui me disent « Vous êtes trompé dans l'exergue. Ce n'est pas... j'ai fait la magique étude du bonheur qu'aucun n'élude. Vous vous êtes trompé. C'est une erreur grossière parce que tout le monde a envie de me prendre en faute. » Moi, je trouve ça normal parce que si j'étais extérieur à moi-même, je voudrais me prendre en faute moi-même. Ça me donnerait une supériorité immédiate sur moi. Donc c'est humain. Et c'est pas ça. Vous vous êtes trompé. Quelle erreur. Il faudra pour la réimpression corriger. Et c'est ça le premier geste. C'est pas du bonheur qu'aucun élude, c'est du bonheur que nul n'élude. Vous allez me dire que ça ne fait pas une grande différence. Mais si, ça fait une grande différence. Donc, Rimbaud a corrigé ses poèmes. Et par exemple, je vais vous dire, elle est retrouvée, quoi l'éternité ? C'est la mer allée avec le soleil. Voilà la première version. Donc, ce poème est un poème fabuleux que vous pouvez vous réciter indéfiniment, comme je le fais d'ailleurs, et vous en apprendrez un peu plus chaque jour, parce que c'est ça la poésie, c'est-à-dire que vous pouvez éternellement la ruminer, et elle va vous apparaître sous un jour toujours nouveau, selon que c'est le matin, le soir, un tel jour ou tel autre. C'est ça le problème. La méditation fondamentale porte là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un poème ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui est inépuisable dans sa ressource dite avec des mots ? C'est étrange qu'on puisse faire comme ça des formulations verbales que vous pouvez ensuite méditer indéfiniment. Moi, j'arrête pas. Rimbaud, c'est tous les jours, ça me paraît nouveau. Hein ? Alors, elle est retrouvée quoi ? L'éternité. Vous voyez que c'est un poème qui porte sur une méditation sur le temps. Phrase, c'est le vers célèbre. Les retrouver quoi, les personnes se demandent ce que ça veut dire, d'ailleurs. Enfin, ça fait rien. On les récite. D'habitude, les acteurs aussi récitent des poèmes sans se demander ce que ça veut dire. Et ça s'entend. Ils ne se demandent pas ce que ça veut dire. En général, d'ailleurs, on ne se demande pas ce que la poésie veut dire. Vraiment.
Et faut-il
c'est un ornement. C'est...
Faut-il se le demander ?
Faites-moi un peu. Oui, il faut se le demander. Parce que la poésie pense plus profond que toute pensée. Voilà. Alors, Elle est retrouvée quoi, l'éternité? C'est la mer allée avec le soleil. Rimbaud corrige. Elle est retrouvée quoi, l'éternité? Quoi, l'éternité? C'est la mer mêlée au soleil. Voilà. Vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose.
Non, mais
vous êtes dans un zoom avant, y compris sur l'intention sexuelle sous-jacente. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas la mer. Vous l'entendez, la mer. Elle est pas allée avec le soleil. Bon, c'est la mer mêlée au soleil. Bon, c'est vu de plus près, si je peux dire. Ensuite, vous avez première version. Mon âme éternelle. Ah, voilà, voilà qui va tutoyer son âme éternelle. Hein. C'est pas donné à tout le monde à chaque instant de tutoyer son âme éternelle. Mon âme éternelle murmure l'aveu. Première version. Murmure l'aveu malgré la nuit nulle et le jour en feu. Correction. On change très peu de choses. Vous allez voir que c'est de conséquences extrêmes. Mon âme éternelle observe ton vœu. C'est pas la même chose que murmure l'aveu. Observer son vœu. Donc il s'est passé quelque chose, s'il change. Il ne murmure plus un aveu, il observe un vœu. Mon âme éternelle observe ton vœu, observe dans les deux sens, d'observation et d'observer, stricte observance, voilà, par exemple. Observe ton vœu, malgré la nuit seule, pas là, malgré la nuit nulle. Hein, malgré la nuit seule et le jour en feu. Donc, j'estime, moi, que c'est... transformations qui ont l'air minimales sont d'une importance considérable sur la pensée de Rimbaud et sur sa méditation métaphysique. Donc, j'écris un roman pour démontrer que la poésie pense plus profond que toute pensée, et donc c'est un roman métaphysique. Est-ce qu'il faut se réoccuper de métaphysique aujourd'hui? C'est une question que je trouve légitime. Parce qu'il me semble que dans les périodes de grande crise, les questions métaphysiques redeviennent tout à coup très brûlantes. Au fond, la nausée n'est pas écrite par hasard par Sartre en 1938, qui prend peur après de l'avoir écrite. Mais qu'est-ce qui lui arrive au Havre? Tout à coup, les gens lui paraissent absurdes. Il a envie de vomir. Tout le monde parle comme dans Eugénie Grandet de Balzac. La société est très en retard. Il n'y a que des attitudes... peu excitante. C'est un livre d'anticipation formidable, parce que deux ans après, c'est le massacre.
Est-ce que vous pourriez développer cette question, je trouve très intéressante, du rapport entre le roman, la poésie et la métaphysique? C'est-à-dire que vous écrivez des romans qui se réclament de la poésie, parce que, nous dites-vous, finalement, seule la poésie a accès aux problèmes métaphysiques. Le roman serait impuissant à cela?
Non, je crois que les grands livres de Romanès sont des livres de métaphysique. Proust, c'est de la métaphysique. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que dormir, pas dormir? C'est des questions fondamentales. Qu'est-ce que c'est que d'être né, de mourir, d'être là? Qu'est-ce qu'on fait avec le langage? La société n'est elle pas absurde? N'ai-je pas affaire autour de moi qu'à des automates qui répètent sans cesse des clichés sans se rendre compte qu'ils sont en vie et qu'ils vont mourir? C'est des questions toutes bêtes.
C'est ça que vous appelez
la métaphysique,
la
poésie, c'est très simple. Ce sont des choses élémentaires. C'est-à-dire, qu'est-ce que la vérité? Pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? À quoi puis-je me raccrocher comme vérité vraiment sûre? Ou qu'est-ce qui me ment? Voilà, c'est tout. C'est une question que je pose.
Vous dites que le roman, c'est le domaine de la poésie pratique. Oui. Qu'est-ce que vous appelez la poésie pratique?
Mais je pense qu'il y a une façon de vivre qui se rapproche de la perception poétique. Je pense, par exemple, que Rimbaud, renonçant à écrire, partant pour l'Arabie, quittant le milieu littéraire, ne voulant plus rien avoir à faire avec les poètes, et Dieu sait à quel point on le comprend, ni à la Troisième République, voilà, dans laquelle nous sommes retombés en plus bas. Je pense qu'il a continué à vivre, à se parler intérieurement poétiquement, et ça ressort de ce que j'essaye d'analyser dans ce studio qui n'a pas été pris au sérieux, c'est-à-dire non seulement le témoignage qui n'a jamais été utilisé, que je sache, du journal de Vitaly Rimbaud, ses sœurs.
Oui.
Il est question beaucoup des mères et des sœurs dans ce livre. Hein. Les mères sont en général négatives. La mère de Hölderlin, la mère de Rimbaud. Les sœurs, en général, sont positives. Dans le cas de Rimbaud, je dirais que je réhabilite, entre guillemets, Isabelle. C'est-à-dire que la fameuse séquence qui a traumatisé tout le monde de la mort de Rimbaud à l'hôpital de Marseille, Isabelle Rimbaud, qui est sous l'effet de la morphine, n'est-ce pas, son frère souffrant beaucoup, il parle. Et elle décrit, dans une lettre, ce qu'elle est en train de découvrir stupéfaite. Donc c'est une lettre pas fabriquée après coup, c'est une lettre sur le moment. Rimbaud se met à parler. Bon. Donc, c'est pas du tout le même qui écrit des lettres d'une froideur totale. Bonjour, comment ça va? Voilà ce que j'étudie. Donc, c'est ça que ça continue. C'est une façon d'être, la poésie. C'est une façon de respirer, c'est une façon de marcher, c'est une façon de vivre les choses, les corps humains, soi-même, son sommeil. Voilà. C'est tout.
Vous dites que vous avez réhabilité Isabelle Rimbaud.
Je mets les guillemets parce que elle a été l'enjeu de passe d'armes passionnées. Oui. D'un côté, c'était la religieuse encore nette, pratiquement. Bon, pour Claudel, et ça. Pour les autres, c'était la femme qui avait travesti Rimbaud. Donc il y a eu une lutte qui est une lutte qui nous paraît extraordinairement dépassée aujourd'hui. Moi, je m'en tiens à la question plus radicale que je pose. Je me fiche pas mal de savoir si c'est une conversion religieuse ou bien si c'est un programme révolutionnaire. Bon, je veux savoir quelle était son expérience pratique au jour le jour. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un corps dans certaines conditions? La formule qui clôt une saison en enfer, et qui me paraît admirable, c'est « Il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps, je me demande ce qu'elle veut dire. » Qu'il soit loisible, quel mot merveilleux, disparu, loisible, de posséder la vérité dans une âme et un corps. Voilà. Alors, bien sûr, ce profil des questions religieuses, bon, en ce moment, on va faire Corpus Christi sur Arte, tout ça. Enfin, vous savez, c'est très... Il y a des proses évangéliques de Rimbaud très intéressantes, d'ailleurs. Il essaye d'imaginer ce que pouvait être la perception de Jésus-Christ, pour l'appeler par son nom, au jour le jour, comment il voyait les couleurs, comment il sentait les fleurs. C'est étrange, il a abandonné assez vite, d'ailleurs.
On va en reparler de Rimbaud et peut-être de Lerline et peut-être aussi de Bordeaux, mais il y a quelque chose que je voudrais vous demander, c'est à propos du narrateur. C'est un espion. Le narrateur n'est pas écrivain, n'est-ce pas? Il est né à Bordeaux, il a eu l'enfance que vous avez rapidement évoquée tout à l'heure. On fait des recoupements avec les ouvrages précédents, mais il n'est pas écrivain. Le narrateur, il est espion. C'est pas la première fois que vous abordez ce thème de l'espionnage. C'est un thème qui vous intéresse beaucoup.
Je dirais agent secret.
Ou agent secret, voilà, c'est ça, agent secret. Alors pourquoi l'agent secret, la solitude de l'agent secret, la dissimulation, les combinaisons, les fuites, pourquoi tout cela vous passionne-t-il?
Eh bien parce que je crois que la plus grande partie des choses qui se passent dans le secret désormais. Et que souvent, et le plus souvent, vous apprenez bien après coup ce qui s'est passé réellement. Je prends volontiers l'exemple du défunt président de la République, qui a décliné son identité, c'est pas fini d'ailleurs, qui a décliné son identité au cours du temps. Ça ne fait que commencer. Donc c'est pas ce qu'on vous a dit, c'est autre chose. Et c'est toujours autre chose, et puis c'est encore autre chose. Donc j'essaye simplement de dire qu'un écrivain un peu radical aujourd'hui doit se servir de ce qu'on lui révèle pour deviner ce qu'on lui cache. Ça devrait être en effet le programme du citoyen, à vrai dire, hein. C'est-à-dire ne pas être crédule. Je crois que simplement qu'un écrivain, comme je le conçois, ne peut pas essayer de déchiffrer ce qu'on lui cache dans la société telle que nous la vivons. Il a de bonnes raisons de faire ça, parce que je pense réellement que le XXe siècle est un siècle de falsification permanente, historique. C'est un grand siècle de tentatives de falsification de l'histoire. Je ne veux pas vous refaire l'histoire du XXe siècle à travers les régimes totalitaires, les concentrations d'archives qui vous seront donc révélées petit à petit, à condition que vous y mettiez le prix. Et puis le fait que le citoyen ahuri découvre petit à petit que tout s'est passé autrement que ce qu'on lui a dit. Vous me direz, c'est de tout temps. Oui. Bien sûr. Et Balzac est le maître... De cette perception de la falsification. Mais je ne vois pas comment on peut écrire vraiment, sauf alors à raconter des histoires, des fables, des métaphores, pourquoi pas, mais sans s'intéresser vraiment, j'allais dire vraiment à la vérité.
Mais quand même, il y a quelque chose qui me trouble, c'est que ce personnage d'espion...
Agent secret.
D'agent secret... C'est quelqu'un finalement qui fait l'apologie de ce qu'il appelle la solitude radicale.
Oui, ben je crois que c'est l'expérience d'un agent secret. Enfin, ça, je ne sais pas si vous en connaissez, mais enfin, il y a une littérature là-dessus. Mais on peut très bien imaginer, c'est facile à imaginer. Je pense que personne n'est plus seul qu'un agent secret, forcément.
Mais cette solitude radicale, parce qu'enfin bon...
Lorsqu'il a des comptes à rendre, qui peuvent d'ailleurs lui coûter la vie.
Très cher. Cette solitude radicale, vous avez vous-même fait l'assimilation entre le narrateur et l'auteur. Bon, moi j'y serais allé plus prudemment, mais c'est vous qui l'avez faite, cette assimilation, en parlant de son enfance, etc. Cette solitude radicale, elle est celle de l'auteur, qui est un homme quand même, qui entouré, fêté, choyé, admiré, adulé, avec des activités professionnelles importantes.
Où est-on le plus irrepérable qu'en étant choyé, adulé, avec des... Voilà,
c'est bien. Plus irrepérable.
Si j'étais agent secret, ce que je ne suis pas, bien entendu, je m'arrangerais pour être choyé, adulé, en pleine visibilité, etc. Bien entendu, ça va de soi.
Certes, bien sûr.
Mais je ne me cacherais pas quelque part où on se dirait, tiens, c'est un agent secret. Non, mais à supposer que j'en sois un. Mais comme je ne le suis pas. Non, mais j'imagine un agent secret un peu malin. Qu'est-ce qu'il ferait ? Il se cacherait en plein jour, il serait là tout à fait insoupçonnable. Et si j'en étais un, ça serait assez réussi.
Le plus irrepérable, comme vous avez dit, ou le plus seul ? Moi, je vous demandais le plus seul.
Oui, parce qu'on peut
être... Solitude radicale.
Mais oui, mais le problème, c'est qu'on... la solitude, désormais, n'est pas quelque chose qui peut s'emblématiser, comme le voudrait, d'ailleurs, la propagande sociale, dans une solitude, vous savez, cléricale, monastique, c'est-à-dire... Oh, comme c'est sérieux, comme c'est profond, je ne citerai pas de nom, mais je peux vous les donner si vous voulez. Voilà, quelqu'un qui est là, tout à fait à l'écart. Voilà, ça c'est la sainteté, qui ne passe jamais à la télévision, ne parle jamais, ne répond pas aux interviews, qui ne répond pas à la radio. Non, voilà, ça c'est sérieux, ça c'est profond. Vous voulez des noms, je vous les cite. C'est construit, ça aussi. Ça aussi, c'est de la propagande. Et donc, moi, je marche pas. Parce que c'est une façon de... Je crois de... Je vais employer un mot brutal. C'est une façon de se planquer. J'ai dit quelle était mon activité. Je fais la guerre. J'appelle ça la guerre du goût pour aller comme ça. Mais c'est la guerre. Donc, à la guerre comme à la guerre. Mais je ne suis pas planqué.
Tout à l'heure, vous évoquiez le défunt président de la République.
Oui.
Alors, moi, j'aime beaucoup dans le livre parce qu'il y a un mélange de tons quand même. Et alors, il y a des passages extrêmement... comment dire, je n'ose pas dire méchant, mais vous n'êtes certainement pas méchant, mais
bon, c'est pas mon genre.
Non. Ouais, c'est pas des passages.
C'est plus terrible que méchant.
Oui, terrible. Voilà. Alors, donc le président de la le défunt président de la République
était très préoccupé par la mort.
Oui, il apparaît d'abord sous le pseudonyme de la momie, n'est-ce pas, en permanence. Au début, j'ai pas très bien compris que c'était la momie, puis tout d'un coup, alors on comprend bien. Alors la momie, donc c'est le. Alors c'est terrible quand même. Les passages sur la momie sont terribles, comme vous dites.
Je pense que il y a dans le pouvoir quelque chose qui corrompt absolument, je ne vous apprends rien, mais qui donne aussi une certaine consistance à l'hypothèse métaphysique. Et je ne vous apprendrai rien en vous redisant que le défunt président de la République, en cela bien supérieur à l'actuel, à mon avis, qui pérore devant les cendres dans le grand cercueil de Malraux, mais sans rejoindre le grand ton, vous savez, le grand ton mortifère de Malraux, parce que c'est très difficile de faire de la métaphysique, si j'ose dire, d'éloquence pompeuse. Bon, il y a plusieurs types d'actions métaphysiques. Si je vous fais ça, vous aurez... peut-être. Bon. C'est Sarah Bernhardt. Le défunt se signale à nous par des tas de signaux qui fait qu'il s'est beaucoup préoccupé de la mort, de son mourir, à la limite même de son transit vers Sirius, je ne sais pas, comme s'il avait été un adepte du temple solaire. Enfin. Et nous sentons cette religiosité du pouvoir. Y a-t-il un pouvoir sans religiosité ? Vous savez, je ne crois pas. On n'est pas obligé de choisir entre le Panthéon et Notre-Dame de Paris. On peut prendre un taxi et aller voir hier. Mais enfin, il y a une religiosité fondamentale du pouvoir et la République demande à être interpellée sur ses pompes. Et je dirais même sur ses pompes funèbres. Je m'excuse, mais ça me paraît absolument essentiel à partir du moment où vous voulez être dans la poésie réelle, notamment de ce pays, par exemple avec un très grand poète que je cite, mais indirectement, qui est Lautré Hamon. Vous savez que ça, les chants de Maldoror s'achèvent au Panthéon, et allez-y voir vous-même si vous ne voulez pas me croire. Donc, je pense que si nous sommes en régression, ça veut dire que nous n'avons pas compris quelque chose de la volonté de vie sans mort que comporte la poésie. Voilà. Le défunt président de la République s'est intéressé, je dirais même, comme un économe, comme un bourgeois économe qui met toutes les chances de son côté, à son mourir. Mais le mourir n'est pas la mort. C'est une fascination pour le royaume des ombres où on continuerait à vivre depuis l'au-delà. Rappelez-vous ce que le président de la République défunt a dit un jour, je crois aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas. Eh bien, vous dites, vous êtes là dans une religiosité laïque, si vous voulez, enfin, ou syncrétique, qui, moi, ne me paraît pas convaincante. Voilà.
Oui, mais chez Malraux, ça vous gêne aussi, parce que là, vous venez de dire le grand ton mortifère de Malraux, mais il y a un passage où Malraux n'est pas nommé, mais il s'agit du...
Moqué.
Oui, elle a moqué, mais très, très férocement aussi.
Mais j'aime pas ça, quoi. Je pense que nous vivons sous des flux constants d'hypnose, mais c'est pas seulement l'hypnose de la terreur de la mort. Bien sûr, ça, avec la mort, on peut faire beaucoup de choses, notamment faire craindre. C'est la terreur, vous comprenez le problème. Est-ce que on sort ou pas de la terreur? Mais ça, c'est lié au pouvoir, donc à la politique. Vous savez ce qu'a dit Staline, à la fin, c'est toujours la mort qui gagne. Le problème n'est pas de savoir si c'est vérifiable. En effet, nous allons tous mourir, nous serons morts là tous. Mais est-ce que c'est vrai? Eh bien, moi, je trouve que c'est pas vrai. Et évidemment, on peut spéculer sur le fait que c'est indubitable. À la fin, c'est toujours la mort qui gagne. Voilà. Avec ça, on est bien avancé. Seulement, un certain nombre d'expériences de pensée ou de poésie ne nous dit pas ça du tout. Elle nous dit même tout le contraire.
Je voudrais que...
Donc, il y a une incompatibilité entre Rimbaud et le défunt président de la République.
Oui, ça... Je voudrais qu'on revienne...
Pour Rimbaud et tous les bourgeois d'économie du mourir.
Je voudrais qu'on revienne un moment à Bordeaux, parce que évidemment, vous comprendrez que ça nous intéresse ici, ce que vous dites de Bordeaux. Et à partir d'un certain moment dans votre œuvre, vous êtes mis à parler de Bordeaux, ce que vous ne faisiez pas autrefois ou ce que vous faisiez sans jamais nommer Bordeaux. Est-ce qu'à partir d'un certain moment, vous avez nommé Bordeaux et vous avez évoqué de façon précise votre enfance, votre adolescence ici, votre famille et les expériences amoureuses que vous aviez pu faire, et il en est question dans ce livre, et les expériences donc historico-politique dont vous parliez tout à l'heure. Quelle importance ça a eu finalement? Je veux dire que vous en parlez, je n'ai pas envie de vous envoyer des fleurs d'une manière qui vous embarrasserait, mais vous parlez admirablement de Bordeaux, il faut dire, très très bien. Alors, dans certains livres, vous parliez de Bordeaux en le comparant à l'Italie, en le rapprochant de l'Italie. Là, vous rapprochez Bordeaux de la Grèce. Il y a un très, très beau passage sur... À travers Hölderlin, bien sûr, mais il y a un très, très beau passage sur les rapports qui peuvent exister entre la Grèce et Bordeaux. Et qu'est-ce que... Pourquoi avez-vous eu besoin, à un certain temps, n'est-ce pas, de renouer avec cette enfance et avec cette ville? Et qu'est-ce que en quoi c'est important, en quoi c'est essentiel dans votre vie, ces années bordelaise?
Non, mais d'abord, c'est mon Bordeaux. Hein.
Oui,
je me rappelle toujours que j'allais voir Mauriac de temps en temps. Alors, il me disait tous les matins, je me regarde dans la glace et je me demande finalement si ce que j'ai fait a la moindre intérêt.
j'ai raté mon œuvre, parce que Marcel Proust, finalement j'ai peut-être tout raté. Ben, vous savez, l'Académie, le prix Nobel, tout ça, vous savez rien. Voilà, l'Académie, j'ai une prostate, plus une prostate, plus une prostate. Et alors, bon, d'accord, alors j'ai tout obtenu, tous les honneurs. Mais peut-être, je me regarde et je crois que ce n'est rien, rien du tout. Mais si, il y a une seule chose que je me dis en me regardant dans la glace à mon âge. Si tu as fait quelque chose d'essentiel, tu as quitté Bordeaux.
Donc c'est mon Bordeaux. Non. Je n'appelle à nulle célébration conviviale régionale, hein, ça c'est certain. Mais je ne peux pas faire autrement que d'envisager le problème carrément, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est géographiquement pour moi avec les perceptions, les sensations, tatati et tatata, c'est-à-dire, bon, la vigne, le vin, l'océan, ce que j'ai vécu, quoi. Et puis cette curieuse époque, c'est-à-dire l'Espagne, les Allemands qui arrivent jusque-là, vraiment, franchement, il fallait qu'ils aient une passion pour venir jusqu'à Bordeaux, m'interpeller, en somme, à l'âge de 3 ans. Pas comme Hölderlin, qui est passé inaperçu, personne s'est rendu compte du passage de ce poète à Bordeaux, sur le moment, personne. Comme quoi on peut passer dans une ville en parfait inconnu. Ou même être originaire de cette ville et être méconnu complètement, c'est pas grave. Il faut du temps. Et puis d'autre part, la question historique m'intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cet endroit, historiquement. Bon alors là-dessus, il y a évidemment beaucoup de méditations à tirer. Quand la France s'effondre, en général, elle se retrouve à Bordeaux. C'est drôle. C'est là qu'on vient prendre le bateau, qu'on vote les pleins pouvoirs aux dictateurs parisiens. Ouais, il n'y a plus de France, alors tout le monde est à Bordeaux. Le continent n'existe plus. Et puis, il y a l'histoire de la Révolution. C'est très important. Je vais pas. Bon, c'est pas ce soir. Enfin, j'ai écrit un certain nombre de choses sur Sade ou d'autres. Bon, c'est-à-dire les Girondins, les Jacobins, la doxa terroriste. On nous raconte une histoire qui n'est pas vraie. Et en tant que Bordelais, je l'éprouve comme non vraie depuis très longtemps. Et j'ai envie d'en témoigner. Ça n'est pas la France que je conçois. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Je suis dissident. Je suis hérétique. Je suis un cadet de Gascogne singulier qui n'admet pas l'histoire officielle. Voilà.
Le séjour d'Hölderlin à Bordeaux, c'est une énigme totale pour les spécialistes d'Hölderlin. On ne sait rien.
On ne sait pas très bien ce qu'il a fait.
Vous avez une petite
idée. Il faut le lire. Il faut le lire parce que, encore une fois, ce poème qui s'appelle Andenken, Mémoire ou Souvenir, dit au fond ce qu'il a fait. Et puis les lettres qui précèdent son voyage à Bordeaux, ou bien son cheminement vers Bordeaux, disent tout. Il est venu pour avoir une extase. Bon. Et pour avoir l'impression qu'il avait retrouvé ce qui lui était le plus cher, c'est-à-dire la Grèce elle-même. Bizarre. C'est pas les Bordelais. Tiens, voilà un Allemand qui vient là. Évidemment, c'est quelqu'un qui... On n'a pas dépassé Hölderlin dans la méditation de Sophocle, de Pindare, de la poésie grecque fondamentale. C'est évident. Enfin, il suffit de regarder un peu les textes. Il vient à Bordeaux, il se dit, voilà, c'est là. Évidemment, tout le monde s'en fout. Mais enfin, moi, je m'en fous pas. Hein, quelqu'un peut avoir raison. Vous savez, les Italiens ne se rendent pas compte. On peut devenir le concierge de sa propre grandeur. C'est d'ailleurs ce qui est promis aux Français et d'ailleurs ce qui s'organise. Eh bien, je suis contre. Moi, je suis pour qu'on ne livre pas la France à des archaïsmes ou à des revendications populistes, ringardes, tocardes. Et c'est la seule façon de lutter contre la bestiole qui monte. C'est la grandeur non pompeuse de la France, c'est-à-dire les Lumières et cette formidable Lumière de France. Bon, et on est un peu seul dans ce combat parce qu'il y a une ignorance formidable. Enfin,
vous croyez que la bestiole qui monte n'inquiète pas beaucoup de gens?
Si,
pas assez.
Tout le monde ne parle que de ça. Non, alors. Pas moi. Je parle d'Hölderlin et de Rimbaud et de Voltaire éventuellement. Et je ne cite pas le nom exprès.
Des questions pour Philippe Soler.
C'est donc une position politique.
Des questions pour Philippe Soler, c'est dans le public. Monsieur.
Je dis là, on parlait à l'instant d'Hölderlin, et je crois que la seule chose qui est réellement fait Hölderlin à Bordeaux, c'est de venir voir les femmes brunes sur un sol doux comme une soie. C'est la seule
chose. Les femmes brunes sur le sol de soie. Voilà. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi fort. Oui.
Bon, et c'est ça qui fait qu'il est reparti. Enfin, bon, c'est peut-être l'extase dont vous parlez, mais qu'il est reparti, puisqu'il est arrivé théoriquement pour être précepteur, et qu'apparemment, dans les premiers temps, son employeur, le conseiller Meyer, était content de lui. Et tout d'un coup, Hölderlin s'en va. Et on ne sait pas pourquoi, et il s'en va.
Il y a des hypothèses. D'abord, il y a la mort de Suzette Gontard.
Oui, mais il s'en va dans un état d'hébétude, enfin, pendant un certain temps, qui vont amener, justement, le fait qu'il soit enfermé dans cette tour de Tübingen, chez Zimmer.
C'est toute une histoire, Hölderlin. J'en retrace, je crois, la jeunesse d'une façon qui me paraît nouvelle, juste et nouvelle. Parce que, par exemple, personne n'a jamais fait attention aux lettres de Hölderlin à sa mère pendant ce long séjour chez Zimmer. On dit en général que ce sont des lettres de la démence. Or, je trouve que ce sont des lettres d'un humour terrible. Dans la clinique de Tübingen, où on expérimentait un certain nombre de nouveautés psychiatriques, le masque qui rétrécit le visage, un certain nombre de drogues, etc. Il a subi un traitement de choc. On comprend qu'il n'ait pas voulu y retourner. Sa mère avait la possibilité de le faire réinterner à n'importe quel moment. Elle spéculait, nous le savons, sur la pension qui lui était allouée pour son fils. Donc, il fallait que l'argent... Tout ça, ce sont des questions d'argent. Beaucoup. Assez atroces. Et donc, voilà, je prends au sérieux ces lettres. Et je montre comment Hölderlin se dissimule par rapport à sa mère, qui se fout éperdument de lui, qui n'est jamais venu le voir. Les poètes, les grands, n'ont pas de très bon rapport avec le pouvoir tout court, et le pouvoir maternel en particulier. Madame Rimbaud, de ce point de vue, est un personnage extraordinaire. Je cite cette lettre pour parler des citations, parce qu'il faut montrer... Il faut montrer
les lettres que vous citez concernant l'exhumation des restes de Vitali.
Oui, enfin, il y a une lettre, à mon avis, inouïe de Madame Rimbaud faisant du récurage de tombe. N'est-ce pas? Et donc, c'est d'ailleurs, vous remarquerez à quel point ce personnage est courageux, dit les choses, et dans un style qui était celui de l'instruction de ce pays à ce moment-là. C'était une instruction, c'est très bien écrit. Moi, je suis frappé de la fermeté d'écriture de Madame Rimbaud, de Vitali Rimbaud, d'Isabelle Rimbaud. Elles écrivent un français absolument formidable. On ne sait pas qui pourrait. Madame Rimbaud tient le coup. Hein. Alors, dans le cercueil, dans le caveau, vous n'avez qu'à lire studio, vous voyez ce qu'elle est en train de faire. Mais vraiment, ça dépasse l'imagination. Elle n'a pas froid aux yeux. C'est le moins qu'on puisse dire. Et elle se fout éperdument qu'Arthur, qui est là, mort, qu'elle va installer à sa gauche, je crois, oui, avec sa fille dans le... Vitali reversé dans le cercueil de son père. Enfin, c'est une histoire de tous les diables. C'est ça qui m'intéresse. Elle se fout éperdument qu'Arthur Rimbaud ait écrit quoi que ce soit. Elle écrit ça d'ailleurs à Isabelle pour lui dire qu'est-ce que c'est que justement les mères et les sœurs, pour lui donner la leçon. Ah bon, tu commences à t'intéresser aux écrits d'Arthur. Ben moi j'ai le corps, j'ai le cadavre, il est là.
Vous parlez du terrible, terrifiant pouvoir maternel.
C'est un pouvoir nécrophile. C'est pour ça que je m'intéresse au pouvoir tout court, qui repose peut-être en secret sur ce pouvoir profondément nécrophile. Voilà la question que je pose ouvertement. Textes à l'appui.
Oui, mais alors, je suis au regret de vous dire qu'un de vos plus beaux livres, alors je recherche son titre là, évidemment je ne le trouve pas, mais c'est un livre où le narrateur, qui est vraiment très proche de l'auteur dans celui-là, qui n'est pas espion, rien du tout, évoque la figure maternelle d'une façon extraordinairement bouleversante.
Ah, mais oui, mais je dirais, de même que cet enfant qui est né dans une famille qui n'était pas prise dans l'engrenage de l'axe que j'appelle Vichy-Moscou, peut critiquer, à mon avis, de façon plus juste, la société de son temps, à juste titre. De même, une expérience maternelle positive me permet de dire ces atrocités. De même, ai-je dit, et ça provoque un émoi, de même, l'histoire d'amour physique violente entre Simone de Beauvoir et Nelson Algren, dont vous avez les preuves verbales, lui permettent d'écrire Le deuxième sexe, c'est-à-dire le livre fondamental sur l'oppression des femmes. Il faut une situation de bonheur particulier ou d'exception heureuse pour dire des choses vraies et atroces.
Autre question à Philippe Soler.
Oui, sur la fiction narrative. Bon, est-ce que Studio a l'air un petit peu de récupérer des bouts de corde venant d'autres livres. Bon, depuis Une curieuse solitude, Portée du joueur, Le secret, notamment. Donc le narrateur a un statut social différent. Bon, dans certains romans, il a des noms. Là, il n'en a pas. Par contre, il a l'air d'être à la fois Jean et Guillaume, c'est-à-dire Jean-Marie Plane disait il n'est pas écrivain. Moi, je ne suis pas sûr, puisque certains espions ou agents secrets, comme Voltaire, par exemple.
Voilà. Je dis si les agents secrets écrivaient, ils feraient des livres extraordinaires.
Oui, mais vous dites qu'ils écrivent aussi quand ils sont à la retraite, qu'ils passent à la télévision.
Ah oui, mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'il est évident que les agents secrets ont toujours été recrutés dans certains milieux. Et au XVIIIe siècle, notamment, à l'époque de Voltaire, quand Voltaire était en Russie, on a pu émettre des doutes.
Et Vivant Denon, qui m'a intéressé à ce titre.
Et voilà, et Vivant Denon, entre autres. Donc, il y a cette le narrateur serait à la fois Jean et Guillaume, puisqu'il est à la fois l'exécuteur testamentaire de Guillaume, puisqu'il préface une de ses œuvres. Et ce Jean donc qui meurt, effectivement, dans un. Qui est liquidé. Est-ce que c'est aussi le Jean Clément du secret? Pourquoi pas? Ce qui relierait donc Studio au secret.
Bien sûr.
Et donc, qui ferait que le narrateur, étant à la fois. Enfin, arrive à récupérer les deux personnages. J'ai noté aussi.
Je crois que votre remarque est fondée.
Voilà. Ce que j'ai noté aussi,
excusez-moi de vous dire qu'il est important de savoir pour quelles raisons ce Jean a été liquidé, assassiné.
Oui, mais il est comme le dormeur du Val, un petit peu.
Il est dit dans le livre qu'il était au moment d'avoir quelque chose, il est tombé sur quelque chose sur les banques suisses, n'est-ce pas?
Et leur nazi.
Oui, peut-être.
C'est pas. C'est dit.
Mais lorsqu'il est décrit,
il y a beaucoup d'argent.
Ouais.
Donc il me fait en jeu secret sur cette planète.
Et donc sa situation me fait penser aussi au dormeur du Val. Et autre chose, un personnage qui revient, puisque en général vous ne vous appesantissez pas sur la description physique des personnages, donc on n'a en présence que des noms. Et il y a Ingrid qui revient, qui était déjà là dans Le portrait du joueur.
Exact.
Et apparemment la filiation est la même, puisqu'on parle de la Pologne à travers ses ancêtres.
Et de la Hollande.
Donc Ingrid revient. Donc est-ce qu'il y a une tentation, je dirais pas balzacienne.
Mais oui,
de renouer un petit peu tout ça et de faire une comédie humaine du XXe siècle.
Mais bien entendu. Merci de l'avoir remarqué. Je suis très reconnaissant. Il y a en effet l'idée que un jour ou l'autre, ces ramifications seront lisibles. Je les introduis exprès de livre en livre. Je remarque en passant que les personnages de femmes sont rarement évoqués dans les articles ou dans les réflexions à propos de mes livres. Là, il y a deux personnages extrêmement actifs, si j'ose dire. C'est le personnage de l'Espagnol Maria.
Qui était Concha.
Et donc, décrit d'une façon beaucoup plus, je crois, précise. Et d'autre part, un personnage dont personne ne parle jamais, qui s'appelle Marion.
Oui.
qui a un rôle assez important.
Qui est la maîtresse du narrateur.
Enfin, qui est, en effet, comme vous dites...
Dans le roman.
La maîtresse anglaise du narrateur, oui.
Bon, et Marion est-elle une marionnette ?
Non, je ne crois pas que ça n'est pas décrite comme ça.
Non, parce que vous parlez de marionnette aussi.
Oui,
souvent. Ou c'est un mot que vous employez souvent.
Oui, beaucoup. Mais Marion n'est pas une marionnette.
Et dernière chose, je voulais vous demander quel était le rapport que vous aviez avec la Société des gens de lettres.
Aucun.
Non, parce que...
Ah, sauf qu'ils m'ont, je sais pas quoi, ils m'envoient un petit chèque, des rédits, je sais pas quoi, oui. Non, rien. Pourquoi ? Non,
parce que je voulais vous citer quelque chose. Vous dites à un moment donné, le révérend Mallarmé parle au nom de Rimbaud. Enfin, vous dites que personne n'a jamais parlé de Rimbaud, ou si peu. Comme dans Le Secret, vous disiez que personne n'avait parlé de Proust, ou si peu, sauf Céline, pour le détruire, etc. Mais vous dites donc là, le révérend Mallarmé parle pour la Société des gens de lettres, dont il est bien entendu... Le joyau incontesté.
Oui. Non, je vais vous dire.
Alors, je voulais savoir si vous étiez ce joyau incontesté de la Société des gens de lettres.
Non, sinon, ce serait une réflexion ironique.
Voilà.
Parce que sur Rimbaud, je voudrais préciser une chose, parce qu'il y a des gens que ça a choqué, cette réflexion sur Mallarmé. Je crois que Rimbaud, qui était très beau, doué d'un génie fulgurant pour la poésie, donc pour la liberté, donc pour la révolution, a été formidablement aimé, désiré. Verlaine, l'affaire avec Verlaine est là. Verlaine était follement amoureux de Rimbaud. Les métaphores employées par Verlaine pour décrire Rimbaud, et c'est lui qui a construit l'idée des poètes maudits. C'est Verlaine. On se demande si Verlaine n'a jamais lu Une saison d'enfer. À mon avis, non. Il était amoureux physiquement de Rimbaud. Les métaphores employées, ses jambes admirables, ce tigre, vraiment, c'est... Et Mallarmé tombe, si je peux dire, dans le même travers, d'appétit physique, quand il décrit Rimbaud, qu'il a vu. Il y a un texte de Mallarmé célèbre, ses mains de blanchisseuse, la description fait Mallarmé, est extraordinairement chargée d'émotions érotiques. C'est, j'aborde aussi ce problème franchement, je crois. Et je crois que Rimbaud a voulu rompre avec tout ça. Voilà. Il en avait assez d'être désiré physiologiquement, comme d'ailleurs sa mère s'empare de son corps au détriment de ses écrits. Et ça, c'est une question assez grave. Qu'est-ce que c'est que cette passion physique qui s'empare des humains pour un humain qui aurait un langage fulgurant en fonction d'une très grande beauté physique ? C'est très troublant.
Et pourtant, Verlaine revendique dans cette relation le côté féminin et non pas le côté masculin.
Absolument, Verlaine aurait voulu épouser Rimbaud.
Oui, mais en tant que femme. Enfin, Rimbaud homme, plutôt, Rimbaud serait l'époux infernal.
L'époux infernal, oui, mais vous avez remarqué, ce qui me paraît extraordinaire, c'est qu'on a toujours interprété le fameux « changer la vie ». Vous avez ça dans les programmes socialistes bretons, et les socialistes répètent toujours « changer la vie » a dit Rimbaud. Transformer le monde, a dit Marx, changer la vie, a dit Rimbaud. Mais Rimbaud n'a jamais dit changer la vie. Mmh. Il faut lire ce texte extraordinaire. Excusez-moi, je crois que je suis le premier à le lire vraiment. C'est extraordinaire quand même que tout le monde soit féminisé par Rimbaud. Il faudrait quand même voir les choses un peu froidement. Nous ne sommes pas obligés de devenir tous et toutes les femmes de Rimbaud. Mmh. On peut peut-être s'expliquer. Ça fait assez longtemps que ça dure, cette histoire. Donc, il y a un chapitre capital dans Une saison d'enfer qui s'appelle La Vierge folle. Qu'est-ce que c'est que une Vierge folle ? Ça renvoie à l'Évangile. Bon, et c'est la Vierge folle qui se demande ce que c'est que cet époux infernal. Voilà. Et qui dit, il a peut-être des secrets pour changer la vie. Non, il ne fait qu'en chercher, me répliquai-je. Donc c'est extraordinaire qu'on ait dit, Rimbaud a dit changer la vie. Ça veut dire, nous sommes tous et toutes des vierges folles par rapport à Rimbaud. C'est un problème quand même assez important. Parce que dans le cas de Hölderlin, et peut-être dans le cas de tout grand poète à partir du 19e siècle, ces passions libidinales à propos de la poésie, et Artaud a dit beaucoup de choses là-dessus, je vous apprends rien, je suppose, c'est bizarre, cette volonté d'appropriation des corps en déniant le langage qui les porte. Bon, c'est la question centrale que je pose. Qu'est-ce que c'est que de préférer les corps, donc des cadavres potentiels, à un écrit ?
Merci.
Je voudrais, Philippe Solers, vous faire remarquer, et j'espère que vous ne m'accuserez pas de malice ou de malignité, que tout à l'heure vous m'avez rétorqué que les problèmes de forme n'avaient aucun intérêt, mais que si vous tombez sur un lecteur qui a lu votre œuvre avec suffisamment d'attention pour repérer que tel personnage devient tel autre dans un roman et pour rapprocher ces procédés de Balzac, on est en plein dans la forme, pas du tout dans le contenu, mais là ça vous intéresse beaucoup soudain, les problèmes de forme.
C'est les problèmes de contenu.
Non, les problèmes de forme.
Enfin, c'est la même chose, d'accord.
Autre question dans le public. Oui, on vous écoute, monsieur.
Allez-y.
Je voulais vous demander si la démarche de votre livre, ça démontrait pas que la poésie était soumise à une certaine plus-value du contexte. Ça veut dire que si un texte banal fait par un auteur complètement inconnu, il restera banal. Par exemple, autrement, si on sait, par exemple, que c'est un rescapé des camps de la mort, de suite, le poème, il aura une autre valeur, on lui donnera des vertus métaphysiques, alors que si on connaît pas du tout l'auteur, il restera inaperçu. Et quand vous remettez en perspective des poèmes de Hölderlin et de Rimbaud, est-ce que ça ne démontre pas un peu ça?
Ah ben je ne crois pas du tout. Excusez-moi. Je crois que oui, le trafic éventuel d'illustration d'une expérience à travers des textes qui ça se fait tous les jours. Un tel a vécu telle ou telle expérience bouleversante, donc je cite. Mais là, je démontre exactement le contraire. C'est parce que ce qui est écrit, que on redécouvre l'expérience physique qui est derrière. C'est pas à partir du. C'est le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'intéresse pas à l'aventure de Hölderlin. Si, je m'y intéresse, mais je démontre et j'essaye de dire que c'est dans ce qu'il a écrit. C'est pour ça que je suis obligé de pratiquer la lecture des textes, auxquels je suis très attaché, bien sûr, parce que c'est à travers les textes que la vie vraie doit être perçue. Et je remercie ce monsieur qui a fait des calligraphies. Mais j'espère être déchiffré, non pas à partir de ce qu'on racontera de moi, mais à partir de ce que j'ai écrit. C'est donc je me défends moi-même en défendant. Oui. Ma vie sera vraie dans la mesure où on lira ce que j'ai écrit comme étant ma vie vraie. Sinon, c'est comme si un commissariat de police un peu développé me racontait que j'ai été cela. Et ce sera faux. Or, la police s'occupe beaucoup de ces choses.
Je voudrais lire trois lignes de Studio. On classera un jour, c'est le narrateur qui parle, hein, on classera un jour les très rares romans méritant de survivre selon leur sphéricité de saphir, de métal, leur absence de pesanteur, leur capacité de silence. Je crois qu'en écrivant ça, Philippe Solers, vous aviez peut-être une idée derrière la tête, mais ça s'applique très bien à Studio et à d'autres romans qui l'ont précédé. Et je pense qu'on classera un jour Studio parmi les romans qui méritent de survivre à cause de leur sphéricité de saphir. C'est admirable comme formule. Merci.